famille.
Ses fils.
Mon mari, mes fils. J'ai trois fils. Ils sont formidables, ils sont très gentils.
Et il vous manque
de quoi? Oui.
De l'eau. Vous ne les voyez pas assez?
Ben non, ils ont.
Elle est glacée.
Et ils ont leur travail. Je ne suis pas exigeante vis-à-vis d'eux. Je ne veux pas les ennuyer.
Je n'ennuie personne. C'est un petit chat. Un petit minou.
La vie continue. Hein. On doit se faire une idée de dire bon. Je suis venue devenir âgée, je suis... Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas du tout. Et le moral, surtout. Pour moi, c'est le moral. Comme aujourd'hui, j'ai un cafard fou. Je ne sais pas, je me suis levée ce matin, j'avais comme... Mais il y a un cafard fou. On vient à l'émission, ça fait passer la journée. Hein.
Il y a des animations, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour garder... Une vie sociale, voilà, c'est ça. Et c'est très important, parce que ça empêche les gens de se replier sur eux-mêmes. Et c'est ça qui est mauvais. Je vois assez d'exemples pour des gens que je n'ai jamais vu, même vu, parce qu'ils restent isolés dans leur coin. Alors ça, c'est des souvenirs qui parfois sont bons, mais qui parfois dépriment. Il faut continuer à vivre. Des moments de solitude, j'apprécie aussi, mais... Je ne les recherche pas. On n'est pas seul sur Terre. Hein?
Alors, Madame Faure, Madame Colson.
Ah, je vous retrouve, parfait.
Voilà. Vous allez vous accroupir un petit peu. Et vous allez vous agripper à la chaise comme si elle voulait vous la prendre.
Tu te cramponnes, moi je vais tirer de l'autre côté.
Parfait. Allez, on y va. Hein? Ah,
c'est à moi ça.
Mais oui, mais moi je le veux.
Non.
Ah, oh,
quelle force!
Ah, oh, qu'elle est méchante, oh, mais qu'elle a de du ressort!
Qu'est-ce qu'il faut pas faire?
Il vous en faut encore?
Une dernière fois! Mais vous n'êtes pas obligé de tirer pour de vrai, vous pouvez juste garder la pause et me prendre des têtes de hargneuse.
D'accord.
Ça va?
Alors,
on parle pas.
Vous les voyez toutes les semaines, justement, les résidents ici. Est-ce qu'il y en a qui sont tout à fait isolés?
Il y en a, malheureusement, et le paradoxe, c'est que ceux-là, je ne les vois pas.
Il y en a d'autres que vous avez réussi à sortir de leur...
Oui, et il y en a certains, c'est un travail de chaque jour. On sait qu'il y a des personnes, si on ne venait pas les chercher, elles ne sortiraient pas d'elles-mêmes. Elles resteraient dans leur chambre à attendre, juste parce qu'elles n'ont pas l'initiative de sortir, parce que rien ne les appelle. Et d'avoir quelqu'un qui arrive avec le sourire et qui fait « Bonjour, comment allez-vous? Vous voulez venir passer du bon temps avec nous ?» Ça change tout. Elles ont un grand sourire sur le visage. Elles font « Oh oui, volontiers. »
À vous voir. Excellent, parfait. Merci, mesdames.
Vous suivez, René. Alors, vous vous présentez?
Je m'appelle Raforind, je suis aide-soignante, j'ai 32 ans. Je travaille ici depuis 2008.
Alors, vous travaillez ici avec les résidents,
oui.
Ici?
Oui.
Et il y en a qui restent tout seuls dans leur chambre?
Certainement, oui. Beaucoup même. Ils n'aiment pas trop le contact avec les autres résidents. Ils préfèrent manger seuls, rester seuls.
Mais ils ont de la visite ou bien il y en a
qui
sont
tout seuls? Non. Certains, oui, ont de la famille qui viennent rendre visite, le kiné qui vient.
Et parfois, il y en a qui restent tout seuls chez eux, mais qui n'ont pas de visite, qui n'ont personne.
Personne, oui, ça arrive. Mais ça, c'est vraiment de la solitude.
Et alors, qu'est-ce que vous faites avec eux?
On essaye de les encourager à participer aux activités. S'ils le désirent. Sinon, on passe le plus souvent chez eux pour parler avec eux, rester avec eux, les écouter, raconter leur vie et tout, et essayer de rire un peu avec eux, histoire de changer d'air.
Ce sont des gens tristes?
Souvent, oui. Quand ils racontent leur vécu, il y a beaucoup de tristesse. Parfois, on en arrive même aux larmes. Déjà, et tout, il y a ceux qui ont vécu la guerre, puis il y a ceux qui ont perdu des enfants avant qu'eux-mêmes ne décèdent.
Qu'est-ce qui vous frappe le plus ici, avec les résidents?
Leur désespoir. Ils savent qu'ils arrivent au bout de leur vie et que leur chemin s'arrêtera ici. Et quand on voit parfois les familles qui viennent, qui partent ou qui ne donnent plus de nouvelles et tout, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et c'est ça qui me frappe le plus.
Est-ce que vous voyez que cette solitude, ça a un effet sur la santé des patients ou leur morale?
Bien sûr. Ça peut jouer sur l'alimentation, sur l'envie de vivre qui n'y est plus. Et il y a des moments où elle ne parle plus. Donc elle devient presque muette, quoi. Et puis après, c'est parti. C'est tout un compte à rebours là, qui commence. Et c'est le début de la fin pour certaines, si elles n'ont pas la force de caractère qu'il faut. Et si elles n'ont plus envie de vivre, quoi, ou de se battre.
Solitude, c'est un jour où je devais subir une opération importante. C'était une opération du sein et on ne savait pas si on allait le garder ou l'enlever. Et la décision allait être prise sur le bloc opératoire, donc à un moment où je serais endormie en fait. Voilà, on m'a mise dans un lit, on m'a donné des calmants et j'ai attendu dans un sas où il y avait trois lits, donc j'étais pas toute seule, mais en même temps c'était... Voilà, les autres personnes étaient à moitié endormies ou je sais pas. De toute façon, il n'y avait pas de contact. Et moi, je cogitais. Et en fait, c'était atroce parce que j'avais une conscience aiguë du lieu où j'étais, de ce qui se passait, de ce qui allait se passer. Et je me sentais très, 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 très seule. Enfin, je me disais que c'était pas possible d'être à ce point seule. C'est-à-dire que il y avait des infirmières qui passaient. Et voilà, moi, je sanglotais dans mon lit. Et certaines me prenaient la main, disaient ça va aller, et je leur disais mais non, ça va pas, et ça m'énervait qu'on puisse dire ça va aller. Je me disais mais personne peut comprendre, ressentir, peut être avec moi maintenant, même si je suis avec ma famille, penser à moi, mes parents, ma sœur. Enfin, à cette époque-là de ma vie, je me sentais pas du tout reliée à l'au-delà ou à Dieu, ou à, j'avais pas vraiment de vie spirituelle, on va dire. Et j'ai envié à ce moment-là les gens qui pouvaient avoir ce recours-là, parce que finalement, ça aurait été le seul recours réconfortant pour moi à ce moment-là. Et je me suis dit, mais on doit ressentir ça avant de mourir, en fait. Personne ne va faire ça avec moi, personne ne va s'endormir avec moi, personne ne va être opéré avec moi. Ça a été très, très dur.
La solitude, comme l'or, beaucoup l'ont éprouvée dans des moments difficiles de leur existence. Mais pour certains, elle est un choix de vie. Au monastère Saint-André de Clairlande, nous avons rendez-vous avec le frère Pierre de Béthune.
On vous attendait, vous étiez bienvenu. Mais d'abord, on va vous montrer le monastère, parce que c'est quand même assez caractéristique, un monastère au milieu de la forêt. Ce n'est pas comme dans les grandes abbayes. Il ne faut pas imaginer le monastère de Clairlande comme une de ces merveilleuses abbayes du Moyen-Âge avec des réfectoires qui ont 15 mètres de haut, etc. Ici, les choses sont vraiment simples, mais avec la grande chance d'être inséré dans la forêt.
On peut venir ici, même en n'étant pas croyant?
Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est un lieu ouvert, accueillant, hospitalier. Ceux qui viennent sont soit des personnes qui viennent pour prier, mais aussi des personnes qui viennent pour en convalescence ou qui passent à l'âge de la retraite et qui voudraient un petit peu voir faire le point sur leur vie passée, leur vie future. Donc c'est un lieu qui est vraiment accueillant.
Pourquoi viennent-ils, les gens ?
Ben, ils viennent justement pour trouver un peu plus de solitude, mais une solitude habitée. Pas seulement un lieu écarté, parce que ça, on peut se trouver quand on va très très loin dans une forêt des Ardennes, on peut avoir un endroit presque tout à fait silencieux. Mais ici, c'est une solitude un peu, je dirais, habitée, oui, humanisée. Et c'est ça qui permet que la solitude soit bénéfique, et ne soit pas au contraire quelque chose qui vous rend encore moins humain. Ici, nous sommes dans le quartier des chambres, donc chaque frère a sa chambre qui donne sur ce couloir. Donc, les moines ont tous une cellule. Le mot est un peu sinistre parce que ça évoque là où on met les prisonniers, mais c'est un mot ancien. Et donc, les moines ont leur cellule, c'est-à-dire leur lieu de vie personnelle. On a des moments communautaires, on mange, on parle, on prie, on accueille, mais on a aussi beaucoup de moments personnels. On se recueille, on lit. Ici, cette chambre a l'avantage d'être un duplex. Ici, en bas, je travaille. Et là-haut, je dors et je prie. Chacun a un peu sa façon, selon son histoire. Moi, donc, comme j'ai rencontré le bouddhisme et que j'ai été fort touché là-bas, ma prière, c'est plutôt la méditation zen. Et donc, le matin, une heure avant le lever des autres, je me lève et je médite une heure ici, dans mon duplex. Et pour moi, c'est un peu le pôle silencieux, solitaire, de ma vie relationnelle et où je parle beaucoup.
Frère Thibault fait partie du monastère depuis peu. Il a quitté sa vie civile pour Saint-André de Clerland.
J'ai même une fille qui a 23 ans maintenant, qui se débrouille bien. Mais oui, j'ai vécu une... Enfin, quand je dis une autre vie, ce n'est pas tout à fait vrai. Celle-ci est un peu la continuation et la conséquence de la précédente. Les choses sont devenues ce qu'elles sont. Moi, je suis arrivé d'abord à l'hôtellerie de Clerland, puis j'y suis revenu avec des intervalles de plus en plus courts, et puis pour finir, il n'y a plus d'intervalle du tout. Et j'y suis resté parce que ça correspondait à un besoin et à une sorte d'appel aussi qui s'est installé avec le temps.
Vous aviez besoin de couper la vie d'avant, c'est-à-dire une insertion professionnelle ?
Il y a plusieurs facteurs. À une époque, j'ai eu pas mal de difficultés. On parlait de solitude. J'avais une solitude mal vécue qui était plus un isolement, en fait. Enfin, tout ça mis ensemble fait qu'à un moment, oui, j'avais un besoin que j'identifiais pas bien. Et ici, à Clerland, j'ai trouvé un moyen d'épanouir cet espace où quelque chose se passe. Alors oui, c'est difficile d'en parler parce que c'est assez mystérieux. Voilà.
Vous vous sentez mieux depuis que vous êtes ici ? Vous êtes recentré ?
Ah oui, oui, oui. Ça, je peux indubitablement répondre oui. C'est pas tous les jours forcément facile parce que les aléas de la vie communautaire peuvent... Il faut vivre avec les gens, et ça, que ce soit à l'extérieur ou ici, c'est la même chose, mais on apprend à se connaître les autres, mais aussi en résonance à se connaître soi-même. On vit des choses communes dans les offices, et il y a des points communs certainement entre les personnes, mais je crois que le fond de notre être, il est avec cette solitude, et celle-là n'est pas pareille à ce que peut vivre une autre personne. Voilà.
Voilà.
Nous sommes dans la chapelle.
Oui, orientée vers une abside où il y a la croix, le tabernacle, le lutrin avec l'évangile. Mais en même temps, les frères sont assis face à face. Avec aussi la caractéristique, c'est que tout est sur un même niveau. On est tous ensemble sur pied d'égalité. Et avec la nature autour de nous, qui nous rend plus justes, je crois. C'est important d'être référé à la nature. Ce qui me semblait devoir être dit aujourd'hui, c'est qu'au fond, toutes ces différentes choses, comme la solitude, le silence, sont considérées avec une certaine crainte, parce qu'on voit qu'à côté de la solitude, il y a l'isolement, à côté du silence, il y a ceux qui ne peuvent pas parler, à côté de la pauvreté, il y a ceux qui sont réduits à la misère. Et donc, on a tendance à privilégier l'aspect positif, la parole, la rencontre. Mais si on néglige l'autre pôle, qui est justement le silence, la solitude, ces choses positives risquent de ne pas avoir toute leur valeur. Et je crois qu'aujourd'hui, le danger, c'est qu'on voudrait voir surtout l'aspect positif de toutes ces choses qui font la vie, sans avoir le courage, je dirais, d'également passer par le nécessaire silence, la nécessaire solitude, le nécessaire jeûne. Si on veut apprécier la nourriture, si on veut apprécier les choses positives, il faut consentir à ce qu'il y ait une partie négative, comme il y a la nuit, par rapport au jour. Et quand on veut supprimer la nuit en mettant partout des éclairages, on ne peut même plus apprécier la beauté du jour. Et donc je crois qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est une certaine peur de tout ce qui est du côté solitude, sabbat, silence, pauvreté, obéissance. Toutes ces choses-là semblent un peu rébarbatives, alors que c'est le pôle d'une réalité humaine fondamentale.